Bien, je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Et nous allons regarder quelques versets au chapitre 1. Donc, Colossiens, chapitre 1. Et nous lisons les versets 21 à 23. Colossiens 1, 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ici, nous sommes donc dans la lettre de Paul à l'église de Colosse, une lettre qui fait partie des lettres de prison de Paul. Paul est donc à Rome et il est en prison. Et il a reçu une visite d'un monsieur. On n'a pas de détails à ce sujet-là, mais c'est des conclusions qu'on peut tirer du texte. Un monsieur qui s'appelle Épaphras, et qui est le responsable de l'église de Colosse. Et Paul lui-même ne connaît pas personnellement l'église de Colosse. Petite à côté, petite parenthèse, c'est encourageant parce que Paul est passé certainement plusieurs fois à Colosse, mais il n'y avait pas d'église. Comment est-ce que l'église de Colosse est venue à l'existence? Ça, c'est une autre histoire. On pourra prendre du temps un autre moment là-dessus. Mais voilà qu'Épaphras rend visite à Paul en prison à Rome et il lui donne des nouvelles de l'église de Colosse. Par exemple, le fait que les frères à Colosse sont vraiment motivés et ils ont vraiment un désir, ils aiment vraiment le Seigneur. Ils sont dans l'Évangile. Mais Épaphras n'est pas allé à Rome simplement pour faire du tourisme ou pour faire une petite visite à Paul. Il a un problème. Il décèle quelque chose dans l'église de Colosse qui est en train de germer. Et lui-même n'arrive pas à vraiment cerner la chose. C'est probablement un homme d'une certaine inexpérience au niveau de la conduite des églises. On ne sait pas, mais il semble, et il a besoin de l'expérience de Paul. Alors là, on a quelque chose qui est très rare aujourd'hui, l'humilité. Voilà que Épaphras vient. Donc il donne d'un côté de bonnes nouvelles au sujet de Colosse, et Paul a à cœur la santé des églises, il nous le dit. Mais en même temps, il y a un danger, et ce danger effectivement va se développer et dans les deux ou trois premiers siècles de l'Église, va presque détruire l'Église en général par une philosophie. Et Paul, donc, ayant ces informations, cette image devant lui, il prend sa plume et il écrit aux frères. Il écrit aux frères parce qu'il est apôtre et le Seigneur nous donne dans sa grâce de pouvoir bénéficier de l'enseignement qu'il donne. C'est intéressant, c'est une autre chose que je voudrais souligner dans l'introduction. C'est intéressant que si on lit la lettre Colossiens sans rien savoir d'autre, on ne sait rien du tout des erreurs qui menaçaient Colosse. Ce qui est très rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on décrit l'erreur afin de pouvoir y répondre. Paul agit différemment. Il va prêcher l'Évangile, ce qui est la meilleure manière de vider l'erreur de sa puissance. C'est une leçon que je pense que nous avons besoin d'apprendre. Donc, Paul écrit et la première chose qu'il fait, il rend grâce à Dieu pour les frères. Et il leur montre comme quoi il prie continuellement pour que le Seigneur leur donne de croître toujours davantage dans cette nouvelle vie transformée qu'ils ont reçue de lui. Parce que c'est ça en fait, la vie chrétienne. C'est une vie transformée, ça n'est pas une doctrine, c'est plus que ça. Et c'est quelque chose qui a été reçu de Dieu, ça n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Et il leur dit, il prie cela pour eux, afin qu'ils ne retournent pas à des principes d'hommes. C'est intéressant comme quoi on revient continuellement à des traditions, à des principes d'hommes. Ce matin, Philippe faisait la présidence. Alors, moi, je suis devenu assez sensible au fait que nous avons des fois un genre de liturgie. On fait chaque dimanche la même chose. Et je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire. C'est pour ça que j'étais un peu surpris, parce que normalement, il y a une deuxième lecture. Hein. Mais là, elle était longue. Mais vous voyez, on peut tomber dans des traditions, dans des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui deviennent presque au statut de loi. Et on dit, oh, il n'a pas fait ça aujourd'hui. Hein, vous voyez? Non, en fait, ça, c'est des principes d'hommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement mauvais, mais le salut n'est pas dans ces choses. Et ça, c'est important pour nous à le voir. Donc, Paul est en train de voir cela. On ne va pas entrer dans les détails de cette introduction. Je suis en train de faire un genre de petit survol, là. Et puis, au verset 15 et 20, enfin déjà le verset 14, regardez, il parle du... Enfin, verset 13, 14, il parle du fils de son amour, fils bien-aimé. C'est-à-dire le fils en qui est toute son affection de Dieu, n'est-ce pas? En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et là, Paul, en fait, il laisse sa plume tomber et il part dans une doxologie, dans une louange. Parce qu'il a parlé du Fils. Alors, quand il parle du Fils, lui, il ne se sent plus, on dirait aujourd'hui. Et veuille à Dieu que l'Église en général soit ainsi. On se demande des fois où est passé l'émerveillement devant la grâce de Dieu. On traite la grâce de Dieu de façon trop commune. Et quand je dis « on », vous voyez, ce n'est pas personne, c'est tout le monde. Dans l'Église. Donc, il parle du fait que Christ, le Fils, dans son rôle de médiateur, dans son rôle de Christ, est prééminent. Prééminent dans la création, prééminent dans la rédemption, et surtout prééminent pour Dieu lui-même. Regardez le verset 20. Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant dans les cieux, tant ce qui est sur la terre que dans les cieux, en faisant par la paix par lui, par le sang de sa croix. Christ, le Fils, dans son rôle de Christ, est central pour Dieu lui-même. Et on peut même dire que Dieu ne peut pas sauver sans Christ, ce que nous allons voir. Il ne peut pas, on pourrait dire, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. On est d'accord, mais pas en désaccord avec sa nature ni son dessein. Et son dessein, c'est de le faire par Christ. Donc, nous avons cette louange. Il a voulu faire par lui la paix, par le sang de sa croix. Et donc, on a, là, on voit toute la création qui soupire et qui attend la rédemption finale du peuple de Dieu. C'est-à-dire cet état de choses qui va se produire une fois que le peuple de Dieu entre dans la perfection, la totalité, la consommation, on dira plutôt, de son salut. Et tout cela est bien joli. Mais ça peut s'avérer parfois assez éloigné de moi, de mon vécu, du concret, de ma vie. Et après tout, les faux docteurs qui étaient encore assez cachés dans le contexte de Colosse à l'époque, hein, il parle de puissance spirituelle dans les lieux célestes. Il parle de choses qui pourraient vraiment aider. Mais nous sommes ici sur la terre. Et On pourrait dire le lundi matin, c'est le moment le plus difficile, n'est-ce pas? Le moment où on n'est plus dans le confort de l'assemblée des élus ou de l'assemblée tout court, mais on est dans un bureau ou dans un environnement où il y a des choses hostiles. Nous sommes donc sur la terre. Comment tout cela, toutes ces choses que Paul a écrites au sujet des Colossiens, comment tout cela nous affecte-t-il? Et c'est pourquoi Paul en vient ici au verset 21 à l'aspect personnel de cette réconciliation. La réconciliation que Dieu opère pour chacun de ses élus est une question personnelle, quelque chose de vécu. Il y a des profondeurs doctrinales incommensurables qu'on n'arrive même pas encore à imaginer, mais c'est quelque chose de personnel. Donc c'est une réconciliation personnelle, ça va être notre premier point ce matin. Paul n'est pas simplement intéressé par une réconciliation dans les nuages, un concept de réconciliation, quelque chose qui soit dans les idées. Pour lui, c'est quelque chose de très réel et de concret. Et il s'agit effectivement d'une réconciliation, c'est-à-dire d'assembler, d'unir ce qui était désuni, ce qui est aliéné. Et le Fils de Dieu a véritablement ramené ensemble Dieu et des pécheurs qui sont aliénés de lui et de qui il est aliéné. Ça, c'est la situation de tout être humain dans le monde. Et pour certains, le Fils de Dieu, dans son ministère, dans sa vocation, sa mission de Christ, de sauveur, de rédempteur, il réconcilie deux qui sont totalement aliénés. Alors on peut dire, oui, nous on est aliénés de Dieu, mais il est aussi vrai que Dieu ne peut pas considérer le pécheur sans entrer en colère. Le Fils de Dieu a véritablement ramené donc ensemble Dieu et les pécheurs pour les unir dans une même famille. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas simplement « crois et tu seras sauvé ». C'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Et Paul, ici, montre trois aspects de cette réconciliation qui est en Christ. Au moins, il y en a d'autres, mais on va en prendre trois. Premier aspect, premier sous-point, on dira, c'est une réconciliation de la mort. De la mort. Regardez ce qu'il écrit. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort, par sa mort dans le corps de sa chair. Et si nous regardons la lettre aux Éphésiens, qui est en fait une lettre qu'il écrit au même moment et qui est parallèle. D'ailleurs, il y avait des liens très probables entre Éphèse et Colosse. Il parle que vous étiez morts dans vos péchés et dans vos transgressions, dans cette inimitié. Donc, une réconciliation de la mort. Par nature, les Colossiens sont comme tout autre homme, ils sont morts. Paul leur dit ici, « Vous qui étiez autrefois étrangers », c'est-à-dire qu'ils n'appartenaient pas à la famille de Dieu. Alors aujourd'hui, dans notre contexte occidental, la famille, ce n'est pas quelque chose qui a vraiment une importance phénoménale. Il y a énormément de familles qui sont éloignées du fait du brassage de la vie et tout ça. Il y a beaucoup un aspect avec les amis qui est très important et tout ça. Mais si on va dans certaines cultures, encore aujourd'hui, la famille, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et par exemple, je vais souvent en Afrique, alors un tel va me dire « Oh, c'est mon frère ». Alors au début, moi, je pensais « Oh, c'est le frère ». Mais en fait, ce n'est pas le frère, c'est peut-être l'oncle ou le cousin, ou c'est même peut-être assez loin, mais c'est même sang. Alors si c'est le frère, comme nous on dit frère, c'est frère, même père, même mère. Vous voyez? Mais là, non, c'est le frère. Mais pourquoi? Parce que la famille est très importante. Parce que dans ces cultures-là, il y a une interaction entre les membres. Donc, pour nous, il faut faire peut-être une gymnastique pour revoir la chose. Quand Paul dit « Vous étiez autrefois étrangers », on n'appartenait pas, les Colossiens et tout être humain par nature n'appartient pas à la famille de Dieu. Cela veut dire qu'il n'a pas Dieu pour Père. Ou, si on peut dire, mais Dieu est le Père par vertu de création de tout être humain, oui, oui, mais il y a aliénation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce regard, ces relations qu'il devrait y avoir entre père et enfant. Et surtout, les Colossiens ici, étant étrangers, ils n'avaient pas les privilèges de cette famille. C'est-à-dire que si on n'est pas, dans la famille, si on est étranger, on ne va pas hériter. Vous voyez ? Si vous avez par exemple un ami ou une amie très proche, et cet ami, vraiment, vous êtes très très intime, et vous voyez que la personne va bientôt décéder, et il y a des choses dans la maison que vous aimeriez bien, mais vous n'allez pas en hériter. C'est peut-être les enfants qui sont des voyous qui vont en hériter, mais pas vous. Non, il n'y a pas les privilèges. Et on pense encore à ces passages en Éphésiens. Ils étaient privés du droit de cité en Israël. Là encore, on vient dans une ville, c'est pas très important, quoique vous défendez Besançon, nous on défend Chalon, hein, et ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était très important, le droit de cité en Israël, c'est-à-dire le droit de séjourner. Ils étaient étrangers aux alliances de la promesse. C'est-à-dire, ce qui concernait la promesse ne les concernait pas dans leur état d'aliénation. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Non seulement ils n'étaient pas nés dans la famille, mais ils étaient en fait interdits de séjour. Il y a dans certaines cultures ou dans le passé, il y avait des privilèges que les citoyens de telle ville, par exemple, dont ils bénéficiaient, et vous veniez du dehors, vous n'étiez pas parmi ceux-là. Oui, vous pouviez habiter dans la ville, mais comme un étranger. C'est de là que vient le mot bourgeois, par exemple. Et on pouvait acquérir ou on pouvait être accepté comme un bourgeois, comme un citoyen. Il y a dans certaines cultures, maintenant on vous remet les clés de la ville. Bon, c'est un peu du folklore, mais ça veut dire que maintenant vous faites partie de la ville. Vous avez votre droit de cité. Et les Colossiens, par nature, et tout être humain par nature, n'est pas dans ce cas-là. Ils ne participaient pas à la vie de Dieu, et donc, ils étaient morts. Parce que Dieu est la source de la vie. Toute vie vient de Dieu. Si nous vivons, même physiquement, en ce moment, c'est simplement parce que Dieu le permet et parce que Dieu communique cette vie. Mais bien entendu, nous parlons d'une autre vie ici. Et donc, ils étaient morts. Et chaque être humain, par nature, et moi-même par nature, ce que j'amène dans le monde, c'est la mort. Et je l'ai dit souvent, cette illustration. Vous connaissez Jonathan, notre fils. Et récemment, j'ai vu qu'il commence à devenir chauve. Alors, vous allez dire, bien sûr. Ouais, ça veut dire que la vie qu'il a héritée de moi n'est qu'une vie qui meurt. Ça n'est pas la vie de Dieu. C'est important, ces choses-là. Cet état de fait ne provient pas simplement d'une fatalité. Et ça, il faut le dire parce qu'aujourd'hui, l'homme moderne, comme l'homme ancien, comme d'ailleurs ces gens qui fatiguaient les Colossiens, ont essayé de transformer le péché comme une infortune, une fatalité. Quelque chose vous est tombé dessus. Vous avez eu un accident et puis maintenant il faut payer. Vous avez fait une bêtise et puis maintenant il faut subir. Je n'y peux rien. Je suis né comme ça. Donc maintenant je suis une victime du péché. Non, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est pas une fatalité. Paul dit, vous étiez ennemis par vos pensées. C'est-à-dire, traduit en termes modernes, vous étiez hostile dans votre disposition. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça n'est pas simplement quelque chose qui vient du dehors. Il n'y a pas d'homme pécheur innocent. Il n'y a pas, pour reprendre le concept de Rousseau, il n'y a pas de bon sauvage. Non, non. En fait, même le plus civilisé n'est qu'un sauvage de cœur et il ne peut rien faire d'autre. Il n'y a pas de bon sauvage. Et donc, on voit, quand on regarde Éphésiens, le passage parallèle, on voit que ceux qui sont par nature, ils marchent dans leur rébellion. Ce n'est pas simplement une mort physique qui nous est arrivée, puis bon, ben on va mourir, et puis voilà, ça va s'éteindre. Non, non, vous marchiez dans les péchés, vous marchiez autrefois. C'est une mort spirituelle, c'est quelque chose qui est vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que les hommes sont doublement morts par leur disposition et par leurs actions. Et aujourd'hui, on va se présenter le dimanche, on présente une belle façade, on essaye, et même par rapport à la société autour, on essaye de se présenter bien. Mais si on arrive à vivre une vie morale, c'est simplement parce qu'on fait des tas et des tas et des tas d'efforts, ou on a des tas de tabous qui nous aident à réprimer ce qui ne cesse de sortir de notre cœur et qui est continuellement mauvais. Pourquoi est-ce que nous ne péchons pas sans arrêt? C'est parce qu'il y a des forces qui viennent empêcher à ce que ce péché sorte. Vous voyez donc, pécheur, ennemi de Dieu, hostile, hein, mais ennemi par nos pensées. Et c'est ce que Paul ici montre en disant « comme le montrent vos mauvaises voies ». Regardez, vous étiez ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui continuellement sort de l'être humain. Et donc, les Colossiens, en termes naturels, étaient morts. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, l'œuvre de Dieu en Christ, c'est que cela, c'était autrefois. Autrefois. Pour eux, du moins en principe. Mais maintenant, nous lisons, il vous a réconciliés. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres, et on peut s'associer aux Colossiens, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Christ nous a réconciliés de la mort. Vous voyez, premier point, nous réconcilier de la mort. Et c'est important pour nous à garder cela à l'esprit. Parce qu'on a tendance à l'oublier dans le sens que, bon, on est croyant, on est en quelque sorte meilleur que les autres hommes. Non. Par nous-mêmes, non, pas du tout. Pas du tout. Et on le voit, si Dieu, tant soit peu, retire sa main, même du meilleur, entre guillemets, du meilleur croyant, il devient comme un diable. Comme un diable. Et on le sait, n'est-ce pas? On le vit tous les jours, malheureusement. Donc, il nous a réconciliés de la mort. Ce qui vient de nous, comme disait l'apôtre Paul, ce qui est bon ne réside pas en moi. Absolument pas. Donc, il nous a réconciliés de la mort, Christ nous a réconciliés de la mort, et il l'a fait par une réconciliation par la mort. On va jouer un peu sur les mots, hein, vous verrez, mais ça nous permet de nous rappeler ces choses. Réconcilié de la mort et réconcilié par la mort. Il vous a maintenant réconcilié, dit Paul, par sa mort dans le corps de sa chair. Et c'est bien pour cela que le Fils de Dieu a la prééminence sur toute chose. Comme Paul l'a montré dans le passage précédent, il a la prééminence, il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est celui à qui appartient la résurrection. En fait, c'est cela que ça veut dire. Il a la prééminence sur toute chose. Quand Dieu a voulu mettre en œuvre la rédemption de son peuple, il ne s'est pas contenté d'envoyer le plus grand des anges. Il n'a pas fourni un livre qui nous permet de savoir comment faire, parce que nous ne serions tout à fait incapables de le faire. Enfin, il a fourni un livre, bien entendu. Est-ce qu'on peut suivre les injonctions de la Bible? On ne peut même pas les comprendre. Combien de fois on est là à écouter la prédication, on a entendu ça des centaines de fois, et tout d'un coup, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, vous voyez, non, il a envoyé ce qu'il avait de meilleur. Il a envoyé son fils lui-même. Plus proche que lui, il n'y a pas. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il y avait parfaite union entre eux. Oui. C'était là, et c'est pour ça que Paul parle ainsi, c'était là l'erreur des faux docteurs à l'époque. Ils fatiguaient le peuple en disant que, oui, il y a Christ. Mais Christ, c'est une des marches, un des échelons. Mais il y a d'autres échelons pour parvenir à la connaissance. Et on venait à la connaissance. Donc on commence à faire partie d'un petit club privé. On aime tellement ça. On est spéciaux. En fait, Paul continuellement, et si on lit Colossiens, c'est pour ça qu'on le voit, il parle de la connaissance, mais jamais une connaissance seule, c'est la connaissance de quelque chose, la connaissance de sa grâce, la connaissance de son amour, et ainsi de suite. La connaissance de sa volonté, au verset 9, par exemple, et ainsi de suite. Donc, les faux docteurs, ils disaient, vous avez ces différents échelons. Et alors, selon certains, Christ était au début, selon d'autres, il était à la fin. Mais il ne faisait partie que de certains. Et on voit comment c'était très... Les Grecs en étaient friands, parce qu'ils aimaient des leaders. Vous voyez, il y en a qui disaient, mais moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Apollos. Et il y avait des super spirituels qui disaient, moi je suis de Christ. Mais Paul s'insurge contre ça, parce que ce n'était pas plus spirituel. Il ramenait Christ à la hauteur des serviteurs. Mais il n'est pas un serviteur, il est le Seigneur. Non, Paul dit ici, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Le salut est complet en Christ. Il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. En effet, Christ est venu se revêtir du corps de sa chair. Il s'est incarné en devenant homme afin de sauver les hommes par une vie parfaite, chose qui était impossible. Mais il est aussi mort, lui qui ne devait pas mourir, non seulement il est né, a revêtu un corps, mais il est mort et il ne devait pas mourir puisqu'il n'avait pas de péché. Et il l'a fait pour la réconciliation de son peuple. Le péché face à la justice et face à la sainteté de Dieu exige la mort. Il y a péché, Dieu a exigé qu'il doit y avoir mort. Ça, c'est dans sa sainteté, dans sa justice. Et voici que Dieu, dans le Fils de son amour, est mort pour son peuple. En fait, lui le juste pour les injustes. Le salut est donc accompli. Et il n'y a plus rien d'autre à faire. Pourquoi ? Vous savez, parmi les hommes, il faut toujours faire quelque chose de plus. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui soit exigé pour faire la paix avec Dieu. Dieu veut une mort, c'est tout. La mort d'une victime innocente. Et ça, c'était impossible avant que Christ vienne, revête ce corps et meure dans ce corps. Et là, Dieu obtient ce dont il a besoin, ce qui le satisfait, ce qui le met au repos. Et donc, il n'y a besoin de plus rien d'autre, parce que Dieu a ce qu'il veut. Il est au repos maintenant. Il est réconcilié. Donc, les Colossiens ont été réconciliés de la mort par la mort de Christ. Et c'est pour cela que la croix, c'est la gloire du croyant. Ce n'est pas simplement, et il y a beaucoup de religieux qui se glorifient dans la croix. Et c'est là le danger, parce qu'ils se glorifient dans un symbole, dans quelque chose qui est mystique, qui n'a pas de réalité. Mais pour le croyant, la croix de Christ, c'est là où la justice de Dieu s'est abattue et c'est fini. Et pour quiconque est en celui sur qui ça s'est abattu, il n'y a plus de colère, plus du tout. Ça, c'est la paix, c'est le sabbat qu'est Christ. C'est le repos céleste, n'est-ce pas? Donc, réconcilié de la mort d'origine, et réconcilié par la mort de Christ. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi une réconciliation pour la vie. Une réconciliation pour la vie. Parce que si on s'arrête déjà au fait qu'on est réconcilié de la mort par la mort de Christ, c'est déjà bien. Mais dans le salut, Dieu ne se contente pas de ramener les pendules à zéro. C'est-à-dire, on n'est pas là, avec l'ardoise qui est nettoyée, et puis on recommence. Non, non, parce qu'on sait ce qui va se passer. Il n'efface pas simplement l'ardoise, il poursuit un but, il vise un résultat. Et c'est ainsi que nous lisons, « Il vous a maintenant réconcilié pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » En fait, le but de Dieu n'est même pas le salut de son peuple. Le grand but de Dieu, c'est la gloire de son Fils. Et le salut de son peuple, dans le dessein divin, entre dans ce but. Un peu comme un produit dérivé, on pourrait dire. Ah, vous voyez, vraiment, l'Évangile nous vide de toute valeur personnelle. Ce qui est merveilleux, parce qu'en fait, on sait très bien qu'on n'en a pas. On veut croire qu'on en a, mais on sait qu'on n'en a pas. Non, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Vous voyez, on n'est pas là maintenant à essayer de se débrouiller, de vivre le salut. Non, 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 ça, c'est pas ça l'Évangile. Pas du tout. Dieu vise cette grande présentation céleste. Il nous faut vraiment faire attention à la réalité de ces choses. Le salut des enfants de Dieu ne sera pas consommé avant qu'ils entrent dans la salle du banquet des noces de l'agneau. La consommation. Oui, oui, celui qui est sauvé, il est sauvé aujourd'hui. Parfaitement. Il n'a rien d'autre à faire. Mais son salut n'est pas complet. Il y a une consommation céleste. Et ces paroles parlent du grand changement qui intervient dans le salut. Le salut, ce n'est pas simplement une transaction légale. Il y a un côté légal, mais il y a plus que ça. Autrefois, ces Colossiens étaient aliénés de Dieu, ennemis, étrangers, privés de la vie. Ils étaient morts et hostiles. Ils faisaient ce qui déplaît à Dieu et ils n'arrêtaient pas de le faire. Mais maintenant, Dieu a fait quelque chose en Christ pour se réconcilier avec eux et pour les réconcilier avec lui. Christ est mort et il a enlevé de cette manière la raison de la colère, si bien que, étant déclarés justes par la foi, ils ont désormais la paix avec Dieu. Mais tout cela, c'est en vue du jour où ses anciens ennemis et pécheurs vont paraître dans la présence de Dieu. Ils vont être introduits dans la présence de Dieu, parfaits. Non seulement parfaits de façon légale, mais parfaits de façon totale. C'est-à-dire que même leur cœur est touché. Ce n'est pas simplement un statut, c'est une vie. Quel changement ! Parce que ce jour-là, ils seront ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils seront saints, sans reproche. Il n'y a plus rien qui peut être dressé contre eux. Et vous savez qu'aujourd'hui, le croyant, celui qui est en Christ, il est ainsi, mais pas dans son expérience, loin de là. Et il est assailli. Par sa chair, il est assailli par le diable, qui sans cesse lui dit « Mais franchement, tu oses t'appeler croyant ?» Mais c'est une blague, non ? C'est une blague. Mais dans la réalité, et un jour, le diable ne pourra plus dire ça. Plus du tout. Donc la réconciliation de Dieu est une vraie réconciliation. C'est-à-dire que c'est deux cœurs qui sont unis, ensemble et qui vivent ensemble. Et tout se trouve en Christ. Alors, et là ça touchait les Colossiens, pourquoi chercher à supplémenter, à ajouter à Christ ? Pourquoi aller au-delà de Christ ? Tout est en Christ. Tout est en lui. Même Dieu ne peut pas aller au-delà de Christ. S'il veut donner quoi que ce soit à son peuple, c'est en Christ qu'il doit le donner. Cette réconciliation, donc, est véritablement personnelle. elle prend une personne plongée dans le péché et elle en fait une personne nouvelle, préparée pour la présence de Dieu. Et tout cela se fait dans la personne de Christ. La réconciliation est une affaire personnelle. Mais il y a aussi un autre aspect que Paul aborde ici. Il y a une participation personnelle. Et là, il nous faut faire un peu attention. La réconciliation opérée par Christ n'attend pas sa consommation pour prendre effet. Le jour où l'Esprit vient donner la vie, la réconciliation est faite parce qu'elle a été faite à la croix, parce qu'elle a été faite dans le dessein éternel de Dieu. C'est tous ces aspects qui viennent ensemble, voyez. En vertu de la nouvelle vie qui découle de Christ, le croyant entre immédiatement sur le chemin de cette réconciliation. L'œuvre de Christ est si sûre et si acceptée par Dieu que le croyant est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Si vous arrivez à comprendre cela, il faudra me l'expliquer. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. L'Esprit de Christ vit maintenant et demeure dans le croyant. La semence de Dieu est en lui et constitue le principal moteur de cette nouvelle vie. Enfin, pas le principal moteur, le moteur de cette nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le croyant a cette lutte en lui-même dont parle Paul dans sa lettre aux Romains. Et c'est pour cela qu'on va trouver tant d'exhortations à une sainteté de vie dans les pages du Nouveau Testament, notamment. À quoi serviraient toutes ces exhortations si ça n'est pas qu'il y a cette semence qui œuvre, qui vit dans le croyant? Ça n'aurait aucun sens. Les exhortations, les mêmes exhortations qui sont données à quelqu'un qui n'a pas la liberté de Christ, ça ne fait que le condamner. Et effectivement, c'est cette loi qui sert de pédagogue pour le conduire à Christ dans le dessein de Dieu. Mais si je vois un nouveau-né, je parle en termes physiques, là, même s'il est parfaitement formé, le nouveau-né, parfaitement formé, je sais qu'il est mort si je ne l'entends pas pleurer ou si je ne le vois pas chercher le sein de sa mère. On a eu des moments cocasses, le monsieur, le grand-père ou quelqu'un comme ça, ou un ami vient et il prend le tout petit nourrisson, comme ça. Et qu'est-ce que le bébé fait? Il cherche le sein, non? Il dit, mais attends, moi je ne peux rien te donner là. Mais il sait, pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et même s'il est bien formé, s'il n'y a pas ces choses-là, ça n'est pas un être qui est vivant. Et il en est de même du nouveau-né de Dieu. Il n'est pas complet, mais il est vivant. Il est vivant. La vie de Dieu est en lui. Il parviendra un jour, certainement, dans cette présence glorieuse de Dieu. Et si la vie est en lui, elle est éternelle. Vous voyez, ces choses se suivent, c'est obligé. Et si je fabrique une espèce de vie qui est une vie humaine, qui n'est pas éternelle, elle n'entrera pas. Elle n'entrera pas dans l'éternité. Ça n'est pas possible. Et cette vie, donc, si elle s'éteint, elle montre que ce n'est pas la vie de Dieu. Et en fait, toutes les exhortations que nous voyons dans la parole de Dieu, ici, par exemple, sont données et données dans le contexte de l'Église à une foule bigarrée. Une foule où il y a des gens qui sont appelés, d'autres qui ne sont pas appelés. Et ces choses-là vont conforter les uns parce qu'elles s'adressent, elles touchent cette vie nouvelle que Dieu a placée. Pour les autres, ça va les condamner. Pour d'autres, ça va les convaincre, les confondre et les amener à Christ. Mais la vie de Dieu est dans le croyant. Ainsi, dans notre passage, nous voyons que Paul montre aux Colossiens que le salut opéré par Dieu s'ouvre sur une participation de leur part et une participation active. Alors attention, ils ne participent pas à la fabrication de leur salut, si on peut dire. Mais à la vie du salut, ils participent et c'est une chose active. Et comme l'apôtre Pierre parle, dit que vous êtes participants de la nature divine. Alors, parce que certains ont transformé l'Évangile en une religion des œuvres, il ne nous faut pas balancer le bébé avec l'eau du bain. La vie que Dieu donne est une vie qui vit. Ça n'est pas quelque chose qui est simplement inerte jusqu'au dernier jour. Pas du tout. Non, non. Il y a une participation active. Il est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent mettre en œuvre par eux-mêmes. Ils n'ont pas en eux de la force pour cela. Pas du tout. Mais c'est une véritable activité et c'est loin d'être facile. C'est la vie de Christ qui vit dans un être où le péché réside encore. Et bien sûr, il y a des écartèlements, il y a des déchirements, il y a des luttes. C'est un combat qui dure jusqu'à la mort. Et on pense à ce passage de l'apôtre dans Philippiens, très connu. Mettez en œuvre votre salut. Ce n'est pas fabriquer votre salut. Non, mettez en œuvre ce que vous avez déjà. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait cette loi qui disait ce qu'il fallait faire. Et il fallait le faire afin d'avoir le salut. Mais personne ne pouvait le faire et la loi était incapable de donner la force pour cela. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a donné cette vie qui est là. Et quand il dit « il faut faire ça », la vie répond « Amen ». Et le croyant ne vit plus comme il vivait avant. Le croyant ne peut même plus pécher comme il péchait avant. Il ne peut pas pécher de façon impunément. Il ne peut pas justifier son péché. Non, ça c'est l'incroyant, mais c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et nous avons ce merveilleux équilibre entre l'activité de Dieu et l'activité de l'homme. Oui, ce n'est pas la synergie de créer le salut, non, non, c'est de le vivre et c'est la vie de Christ dans le croyant. C'est cette activité de Dieu, c'est cette vie de Christ. Et donc, Paul montre aux Colossiens qu'ils doivent demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Et ici, toute l'idée, tout le point central, c'est sur le fait de demeurer. Parce qu'on ne peut pas demeurer à moins d'entrer. Demeurez dans ma maison, mais vous êtes dehors. Bon, ça c'est une invitation à entrer, n'est-ce pas? Et celui qui demeure, il doit être entré. Mais une fois entré, il faut continuer. On ne va pas rester. Si quelqu'un vient demeurer dans la maison, on va passer une semaine. On ne va pas passer une semaine dans le vestibule. Ça, c'est ridicule. Non, il faut avancer, il faut continuer. De quelle manière faut-il continuer? En étant fondé dans la foi, c'est-à-dire en étant fixé sur une base solide et non pas ballotté par toutes sortes de nouvelles idées qui se promènent, comme c'était le cas à Colosse. Non, c'est cette foi qui est donnée une fois pour toutes aux saints, c'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont données dans la parole de Dieu. Le croyant s'appuie sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. On pourra en parler une autre fois, c'est la manière dont il faisait les bâtiments à cette époque-là. Mais une fois fixé, il faut demeurer inébranlable dans la foi. Et Paul, plusieurs fois, parle qu'on ne va pas recommencer à poser les rudiments. On ne va pas recommencer à poser les fondements, ce n'est pas possible. Le fondement, il est expliqué. Maintenant, on va bâtir sur ce fondement. Et il faut être inébranlable. Et c'est pour cela qu'il parle ainsi aux Colossiens, parce que les faux docteurs venaient ébranler le fondement. Ils voulaient rediscuter le début. Et combien de fois dans nos échanges avec les gens veulent revenir à des choses, l'existence de Dieu. Ben, ça, ce n'est pas approuvé. De toute façon, c'est déjà écrit dans votre cœur. Oui. On n'a pas besoin de revenir à cela. Mais nous qui aimons tellement discuter, c'est tellement une tentation. Le croyant est inébranlable, il doit avancer, demeurer inébranlable dans la foi. Ça n'est pas quelque chose d'immobile et de statique, cette histoire d'être fondée sur un bon fondement et cette histoire d'être inébranlable, ça n'est pas statique. Le croyant est sur un chemin étroit, pas dans un musée. Vous voyez ? Il avance. Mais Paul continue en disant « Demeurez fondés inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile » ou, comme on pourrait le traduire, « de l'espérance qui découle de l'Évangile ». Paul vient effectivement de montrer que l'Évangile vise une grande consommation eschatologique dans les derniers temps, ce que l'Écriture appelle aussi le banquet des noces de l'agneau, le moment joyeux où l'épouse vient ouvertement devant tout l'univers pour être unie totalement à son Sauveur en présence du Père, en présence de Dieu. Cette Église qui sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irréprochable. Les croyants ne sont pas sauvés pour vivre n'importe comment, mais ils sont en chemin vers un but. Et donc, ils marchent de cette manière. Or, celui qui avance ainsi, celui qui avance vers un but, ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il n'a pas le temps pour ça. Ou alors, il n'est pas sérieux. Encore récemment, je devais faire beaucoup de kilomètres en 2 jours pour aller à un but précis, passer un certain temps précis pour ça et je devais revenir. Alors, j'aurais pu m'arrêter tout le long, il y avait des tas de choses à voir, et ainsi de suite, même la fatigue venait et tout. Non, parce qu'il y avait un but, il faut continuer. On ne se détourne pas ni à droite ni à gauche. Non, il faut avancer, il faut avancer. Et celui qui se détourne ne parviendra jamais au but. Quel est le but ? C'est une espérance qui est alimentée par la foi. Et à son tour, elle affermit la foi. L'apôtre Jean dit « Celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Vous voyez, le croyant n'avance pas au hasard. Il n'est pas là tombé d'un jour dans un autre et jusqu'au dernier jour où bon, il arrivera à se faufiler avant que la porte se ferme. C'est une chanson assez connue, ça, en anglais. Mais non. Tout au long de sa vie, il marche vers ce but. Et il regarde le but, et il attend le but. Il a de l'espérance. Il ne se détourne pas. Non. Et s'il se détourne, il ne parviendra pas. Ou tout au moins, il sera dans l'égarement. Et donc, il faut garder les yeux fixés sur Christ, parce que c'est lui qui est le but, c'est lui qui est la vie. Et comment savoir quelle est cette espérance qui découle de l'Évangile ? Comment être sûr de ne pas se tromper ? Parce que les faux docteurs sont souvent très plausibles. L'erreur ne vient pas avec la mention « erreur ». Au contraire, souvent, elle paraît même plus juste que la vérité. Comment ? C'est l'Évangile, nous dit Paul, que vous avez entendu. L'Évangile que vous avez entendu. Les Colossiens, dit Paul, vous n'avez pas besoin de passer à quelque chose d'autre. En fait, ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça a fait en vous ? Ça a créé une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie va un jour entrer dans la perfection, dans la totalité, dans la consommation. Comment est-ce que c'est venu ? Continuez ainsi. C'est l'Évangile que vous avez entendu. Il leur faut plutôt revenir à ce qu'ils ont connu. Combien il est facile de compliquer les choses. Et on se rappelle cette lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse, et qui a une église qui sait comment détecter l'erreur, une église qui est très, très profonde, et ainsi de suite. Et le Seigneur lui dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Elle est tombée dans un système de doctrine. Elle est tombée dans une chasse à l'hérétique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut apprendre d'autres choses ? Non, non, non. Il faut revenir à ce premier amour. Rappelle-toi d'où tu es tombé. On revient à Christ. Et combien de fois dans notre vie, nous allons plus loin que Christ. Plus loin que Christ. Et même Pierre, le grand apôtre Pierre, si on peut dire grand. Hein. Rappelez-vous comment il savait mieux que Jésus. Non, non, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. La croix, non. Mais sans la croix, pauvre Pierre. Hein. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière. Il est passé devant. Il est passé devant. Et on n'est pas devant le maître. Non, non, ce n'était pas possible. Non, c'est ce même évangile. Comment est-ce qu'ils ont été transformés? Comment ils sont passés de la mort à la vie par l'écoute de l'évangile? Eh bien, ce même évangile est ce qui va les amener jusqu'au port. C'est-à-dire que Christ a tout fait, qu'il n'y a rien à faire et que celui qui est ainsi touché est transformé. Vous étiez ennemis de Dieu et à l'écoute de l'évangile, vous êtes devenus enfants de Dieu. Pareillement, étant enfant de Dieu, vous marchez sur la bonne voie en écoutant et en obéissant à l'Évangile, tout simplement. Et cela, bien sûr, guide la vie. C'est ce que Paul dit aux Romains aussi, chapitre 4. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, qu'est-ce que cette vie de Christ? C'est ce que nous avons vu dans le passage d'Hébreux qui nous a été lu. C'était bien tout ce grand passage, en fait, parce qu'on a été obligé de le lire assez rapidement. Et on voit, en fait, c'est un petit peu ce truc accéléré, cette vidéo accélérée. C'était bien. Non, on sera réconcilié par la vie de Christ qui coule en nous, si nous sommes croyants. La preuve, dit Paul, regardez-moi. Moi, Paul, j'étais persécuteur, j'étais un homme orgueilleux. Et là, on voit vraiment le juif pharisaïque, plein de ma propre importance. C'était le monsieur, il dit, quand il donne la liste de ce qu'il était, c'est en fait ce qu'il se disait. Autrefois, hein, hébreu né d'hébreu, irréprochable et tout ça. Tous les soirs, il se disait ça. C'était ça, sa base pour lui. Regardez à moi, j'étais plein de ma propre importance. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a pris à son service. Pourquoi cela? Pour être ministre de l'Évangile. Vous voyez, on est revenu à l'Évangile, pour être serviteur de l'Évangile. Et Paul, quand il va à Colosse, de même que quand il va à Corinthe, il n'est pas là à trouver un nouveau message, à utiliser les bribes et les fanfreluches de la société autour, la philosophie, le théâtre et tout ça. Non, toutes ces choses-là, il les écarte, alors qu'il est capable de les utiliser. Et il ne cherche à connaître parmi eux que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, la personne et l'œuvre de Christ. C'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Voilà donc ce que Paul fait et ce que Paul dit ici aux Colossiens. Il y a des gens qui viennent vous troubler avec toutes sortes d'idées, des idées qui semblent plausibles, des idées qui semblent intelligentes et tout. Et on en a aujourd'hui. Elles foisonnent. Mais il dit non. Revenez à Christ. Restez en Christ. Cet évangile que vous avez entendu. Si vous l'avez entendu, c'est parce que Dieu a débouché les oreilles. Les oreilles de votre cœur. Restons donc, mes amis, enracinés dans ce message qui nous a apporté la vie. Et ayant cette vie, croissons et portons des fruits en vue du salut prêt à être révélé du ciel au jour de Jésus-Christ. Et les croyants de Thessalonique manifestaient leur vie transformée dans le fait qu'ils se détournaient des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Est-ce que nous avons cette espérance? Est-ce que nous sommes fondés? Telle est la question qui se pose à nous. Amen.